Bien, nous avions vu donc ici les thèses principales des post-millénaristes et nous étions arrivés au moment où ces derniers donc évoquent le fait que la mention des 12 apôtres qui seront assis sur 12 trônes au dernier jour est une indication que dans l'âge présent, c'est pour eux l'exégèse qu'ils font de ce texte, c'est que dans l'âge présent, les apôtres dirigent l'Église par l'enseignement du Nouveau Testament qu'ils ont laissé. L'Église qui, bien entendu, est le Nouvel Israël. Vous voyez que ce type d'exégèse-là est drôlement tiré par les cheveux. En tout cas, si on veut adopter ce type d'exégèse, on est obligé de conclure que Jésus parlait un langage tellement différent de celui de ses auditeurs qu'il n'avait aucune chance d'être compris par eux. Et dans ce cas-là, on se demande pourquoi Jésus n'avait pas cherché à expliquer que, en fin de compte, ce qu'il disait devait être compris absolument différemment de ce que ses auditeurs en comprenaient. Ses auditeurs étaient évidemment des Juifs, pour lesquels les 12 apôtres assis sur 12 trônes représentaient les juges eschatologiques du peuple d'Israël au temps de la fin, et absolument pas l'Église. Comment se fait-il que Jésus parlait pour ne pas être compris, sur le plan simplement moral, éthique, une telle attitude serait absolument discutable, et incompatible, bien entendu, avec la sainteté, la droiture et l'honnêteté intellectuelle de Jésus. Donc, on est obligé de conclure que ce type d'exégèse est absolument intenable. Autre point également, les Juifs, disent les post-millénaristes, ne sont pas le peuple de Dieu, ne sont plus le peuple de Dieu. Et en fin de compte, la ruine de Jérusalem et la dispersion du peuple d'Israël a été une délivrance pour le véritable peuple de Dieu qu'est l'Église. Parce que la ruine de Jérusalem en 70 met fin à l'existence d'Israël et donc concrétise le rejet d'Israël par Dieu. Ainsi, l'Église est libérée de l'esclavage d'Israël et de Jérusalem, de sorte que maintenant, elle peut se tourner véritablement vers les nations, dans lesquelles, un jour, elle deviendra minoritaire. Alors, on assiste à ce paradoxe absolument incroyable, que s'il y a quelque chose qui est dit de positif sur Israël, ça concerne l'Église. Si c'est quelque chose de négatif, ça concerne les Juifs. Et on continue sur cette lancée pour affirmer que dire que les prophéties concernent Israël est une forme de racisme, car c'est exalter la race et l'opposer à la grâce. C'est une grave hérésie. Voilà. Donc, on retourne maintenant le racisme dont les Juifs ont souffert, et on a un argument que M. Arafat ne désavouerait pas. En fin de compte, ce ne sont pas les racistes, les antisémites qui sont racistes, ce sont les Juifs qui sont racistes. Comme ça, au moins, ça déculpabilise tout le monde. Ainsi, dans Apocalypse 7, les 144 000 sont l'Église, le véritable Israël. Et la femme de l'Apocalypse 12 est aussi, bien entendu, le peuple d'Israël. Quant à la Grande Babylone, c'est la Jérusalem terrestre. Voilà, on en arrive à ce tour de passe-passe extraordinaire, n'est-ce pas, où les ennemis d'Israël, la Grande Babylone, deviennent Israël lui-même, quoi. Alors, donc, c'est le même tonneau que celui que nous avons vu, n'est-ce pas? Les Juifs sont les véritables nazis et non pas Hitler. Tout ça, c'est... Voyez-vous, c'est le même esprit. C'est le même esprit qui est derrière, justement, cette mentalité-là. Et Hodge, de conclure, le royaume de Dieu ne sera juif en rien. Voilà. C'est surtout ça qui est important. Car le royaume de Dieu, c'est l'Église qui le rend visible. Et à la venue de Jésus, le royaume a été transféré des Juifs aux nations. En fait, les païens ont été libérés de la Torah et elle est donc abolie définitivement. D'où justement le fait que le samedi, le Shabbat, se trouve transféré au dimanche, etc., etc. Alors, bien entendu, après une telle position, il ne faut pas s'étonner que Hodge déclare que l'État d'Israël n'est en rien un projet divin, que même ce retour d'Israël est la cause de la tension au Moyen-Orient, et que les Juifs n'ont aucun droit sur ce pays. D'ailleurs, le fait que les Juifs existent encore aujourd'hui est un phénomène anormal. L'État d'Israël est le résultat de l'action des hommes, et Dieu n'est pour rien, strictement pour rien, dans cette affaire. Il n'a même pas l'élémentaire prudence de se demander si, après tout, quelque chose arrive dans le monde sans que, au moins, le Seigneur ne l'ait permis. Et pourquoi, finalement, si les choses sont aussi catégoriques que ce que Hodge veut bien dire, Dieu a-t-il permis que l'État d'Israël ressuscite ? Enfin, ça, évidemment, ça va au-delà, n'est-ce pas, de la compréhension de ces gens-là qui sont aveuglés par des sentiments extrêmement troubles vis-à-vis d'Israël. Pour Hodge, l'olivier est Israël qui a été rejeté et Israël n'a plus d'avenir si ce n'est d'entrer dans l'Église par la conversion et de s'amalgamer aux nations qui sont déjà dans l'Église. Pour un autre post-millénariste, qui d'ailleurs est une grande autorité en milieu évangélique, Murray, il y a deux Israël, un ethnique et l'autre spirituel. En fait, on oublie dans cette affaire que ce que dit Paul, en fait, c'est que les privilèges nationaux d'Israël ne sont pas une garantie de salut individuel. Je crois que c'est le nœud de la question. Et c'est cela, justement, que les post-millénaristes ne voient pas. En tant que nation, Israël n'est pas rejeté. Israël garde ses privilèges. Mais le fait d'appartenir ethniquement à Israël n'est pas une garantie de salut individuel. Pour les post-millénaristes, les Juifs ne sont plus le peuple d'Israël, car tous ceux qui sont Israël ne sont pas Israël. Et on prend ce texte en le déformant d'ailleurs, n'est-ce pas ? Car Israël, c'est l'Église, c'est évident. En tout cas pour eux. On peut aussi, bien sûr, reprendre la même argumentation pour dire que tous ceux qui sont l'Église visible ne sont pas obligatoirement l'Église. Et que dans l'Église aussi, n'est-ce pas ? Il y a ceux qui sont ethniquement membres de l'Église, et puis ceux qui sont véritablement, ceux que le Seigneur reconnaît pour son Église, ça veut dire qu'ils sont véritablement sauvés. D'ailleurs, quand on se réfère toujours à Abraham, enfant d'Abraham, etc., donc, bon, nous sommes enfants d'Abraham par la foi, donc nous sommes Israël spirituel. On oublie une chose. C'est que l'appartenance à Israël ne passe pas par le seul Abraham, mais passe par Abraham, Isaac et Jacob. Et que pour pouvoir se dire d'Israël, il faut être descendant non seulement d'Abraham, mais d'Isaac et de Jacob aussi. Et c'est la raison pour laquelle, bien que descendant d'Abraham, les Arabes ne sont pas juifs, ne sont pas Israël. Et c'est la raison pour laquelle, bien que descendant d'Abraham par la foi, les chrétiens ne sont pas Israël. Car ils ne peuvent pas prétendre descendre d'Isaac et de Jacob. N'est-ce pas ? Alors, c'est vrai qu'il y a un Israël spirituel dans l'Israël ethnique, ceux qui ont cru en Jésus, et qui sont alors, comme nous l'avons vu la dernière fois, ce que Paul dans Galates 5 appelle l'Israël de Dieu, mais il s'agit de ceux des Juifs qui ont cru, et non pas de toute l'Église. D'ailleurs, Paul fait une nette différence entre les deux descendances d'Abraham. La semence spirituelle d'Abraham est composée de ceux des païens et des juifs qui ont cru, mais la semence ethnique d'Abraham n'est composée que de ceux qui descendent d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas. Le fait de ne pas croire n'enlève pas le fait qu'ils sont ethniquement descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et donc qu'ils appartiennent quand même à Israël. Bien, maintenant, il faut aussi souligner un autre point très important. C'est que le but de la Torah, eh bien, n'a jamais été d'être un moyen de justification. Et cela, la Torah le souligne d'elle-même d'une manière très forte. La Torah a été donnée à Israël comme une règle de vie, une règle de vie pour ce monde-ci. Celui qui mettra ses commandements en pratique, nous dit le livre du Deutéronome, sera béni. Tu seras béni dans tes champs, tu seras béni dans tes vignes, tu seras béni dans ta vie, ici-bas. Nulle part, la Torah ne dit que celui qui met les commandements du Seigneur en pratique sera béni dans le monde à venir. Mais par contre, que celui qui ne mettra pas la Torah en pratique sera maudit dans ses champs, dans ses vignes, dans ses moissons, etc. C'est-à-dire, justement, dans ce monde-ci. Et à partir de ce fait évident, mais qui a été souvent sous-estimé, Paul conclut que la Torah n'a jamais eu pour but de procurer à celui qui, aux Juifs et aux païens, puisque certains païens, tels les Galates, étaient tentés justement par la Torah comme moyen de salut, jamais la Torah n'a eu pour prétention d'être un moyen de salut. Par contre, Paul emploie un autre mot extrêmement important, que l'on comprend très mal aussi. « Car le Messie, dit-il, est la fin de la Torah. » Vous voyez, donc, la Torah n'est plus en vigueur aujourd'hui, c'est terminé, n'est-ce pas ? Nous n'avons plus rien à faire avec la Torah. Attention. Ça, c'est toujours le problème des traductions, n'est-ce pas ? On lit le texte dans les traductions et non pas dans l'original. L'original nous dit que le Messie est le télos de la Torah. Ah, mot grec télos. Qui signifie effectivement, qui peut signifier la fin d'une chose, mais aussi le but d'une chose. Comme d'ailleurs le mot français. N'est-ce pas ? À seule fin de. Afin de. Ça veut dire dans le but de. Et plutôt que de traduire comme font la plupart des traducteurs qui sont marqués justement par le post-millénarisme ou la millénarisme, le Messie ou le Christ, comme on traduit en général, parce qu'on ne veut pas employer le mot Messie, ça fait trop juif, alors on emploie le mot Christ, n'est-ce pas ? Christ est la fin de la Torah. Mais on peut aussi traduire Christ est le but de la Torah. Vous voyez, ça change complètement la perspective. Et lorsque nous lisons ce que Paul écrit, il est évident que c'était cela que Paul visait. Il est le but de la Torah. Dans les Galates, Paul nous dit que la Torah était comme un pédagogue pour conduire au Messie. Ça a été un certain nombre de réalités qui avaient pour but. Et il le montre, c'est toute sa démonstration aux Galates, de faire prendre conscience au peuple d'Israël combien la Torah était limitée et insuffisante, notamment en ce qui concerne le salut, et par conséquent qui devait amener le juif à soupirer après justement quelque chose d'autre, quelque chose de supérieur, qui viendrait combler justement les insuffisances de la Torah. Non pas pour y mettre fin, mais au contraire, comme Jésus le dit lui-même, la compléter. Car Jésus s'oppose à fond à cette doctrine de Jésus qui aurait mis fin à la Torah. Jésus dit, « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah, Matthieu 5, mais je suis venu pour la compléter, l'accomplir, lui donner toute sa signification, lui donner tout son sens. » Par conséquent, Paul pourrait-il contredire Jésus ? Mais nos braves traducteurs ne sont pas une contradiction près. Et ce d'autant pour eux que justement ils interprètent aussi « accomplir » dans le sens de « mettre fin ». Et alors on a des énormités de ce type-là. Car finalement, la question qui se pose est « mais enfin, Jésus a lui-même, il a respecté la Torah, il a vécu la Torah ». D'ailleurs, Paul le dit d'une manière explicite. Quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils né d'une femme, né sous la Torah. Puis il continue en disant « Je dis que le Messie a été fait serviteur des circoncis pour l'accomplissement des promesses faites au Père. » Alors les antinominalistes, ça veut dire ceux qui sont contre la Torah, contre la loi, nomos c'est la loi en grec, n'est-ce pas ? Disent « Oui, bien sûr, c'est la mort de Jésus qui a mis fin à la Torah. » Donc aussi longtemps que Jésus était vivant, Jésus a respecté la Torah. Vous vous rendez compte jusqu'où on va ? Enfin, c'est risible, quoi. C'est grotesque. Une argumentation de ce type-là, on voit bien tout ce qu'elle a de partisan et d'intenable par rapport au témoignage d'Écriture. Maintenant, si on veut continuer. Non seulement on oppose ici Paul à Jésus, mais on oppose Paul à Paul. Romains 3, Paul dit ceci. Est-ce que nous anéantissons la Torah par la foi ? Est-ce que la Torah est contre la foi ? Ou la foi est-elle contre la Torah ? Et il emploie un mot très, très fort. Mais c'est hors de question, ce serait impensable. Au contraire, nous établissons la Torah. Et dans le langage rabbinique, établir les kayem en hébreu, ça signifie donner sa pleine signification, son plein sens. N'est-ce pas ? Et non seulement, nous dit l'apôtre Jean, Jésus n'anéantit pas la Torah, mais il est lui-même la Torah faite chair. Le Logos, la parole qui était au commencement, qu'est-ce que c'est si ce n'est justement la Torah faite chair ? Car la Torah a été donnée par Moïse, dit Jean à la fin de son prologue, Jean 1. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors on traduit en général, car la Torah a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité. Donc avec Jésus, excite la Torah, excite Moïse. La grâce et la vérité s'opposent à la Torah. La Torah, c'était la rigueur, c'était la loi, c'était le Dieu jaloux, etc. Jésus, c'est la grâce, c'est etc. Bon, voilà. On n'oublie qu'une seule chose. C'est qu'aussi Chesed ve Emet, que Jean traduit par grâce et vérité, c'est une expression qu'on trouve déjà dans le chapitre 34 du livre de l'Exode, où le Seigneur dit à Moïse, quand Moïse dit « Montre-moi ta face », le Seigneur lui dit « Je te cacherai dans le creux du rocher et je ferai passer devant moi toute ma bonté, chesed. » Et quand le Seigneur passe, il proclame le nom de l'Éternel, Adonai, El Hanun, El Chapaim, Arav Chesed. On retrouve les deux mots, la grâce et la vérité. Vous retrouvez ça dans de nombreux psaumes. Chesed ve'emet nivgeshu, la vérité et la grâce, la bonté, l'amour se sont rencontrés. N'est-ce pas ? Or, quand vous voyez cela, vous vous rendez compte que Chesed ve'emet, c'est une expression hébraïque, c'est une paire de mots qui vont toujours ensemble dans la Bible, et qui signifie l'amour de Dieu, l'amour éternel, durable et fidèle de Dieu manifesté à son peuple. Ton peuple d'Israël. Cet amour qui était déjà donc incarné dans la Torah, car c'est justement le chesed et l'émet de Dieu, dit Dieu à Moïse, qui l'amène à donner cette révélation au peuple d'Israël. Par conséquent, chesed et émet ne s'opposent pas à la Torah. Qu'est-ce que veut dire Jean ? La révélation était donnée par Moïse, dans une prophétie, la Torah. Et la vérité profonde, l'essence de la Torah, la nature de la Torah, a été révélée, manifestée par Jésus-Christ, qui a été la Torah faite chair, la parole faite chair. En lui, par lui, nous connaissons le véritable sens de la Torah, le but de la Torah, le télos de la Torah, qui est la manifestation à l'homme de l'amour de Dieu, de cet amour éternel, durable et fidèle. Voilà. Alors voyez-vous, cette lecture erronée qu'on a du Nouveau Testament, conditionnée par l'enseignement de Chrysostome, par l'enseignement d'Augustin, par l'enseignement des pères de l'Église antisémites, et qu'on retrouve dans, chez les modernes, chez les commentateurs modernes, y compris dans le milieu évangélique. Et finalement, ça vient du fait qu'on ne peut pas comprendre le Nouveau Testament. Enfin, pas comprendre bien des passages du Nouveau Testament si on ne les replace pas dans leur contexte culturel juif. Alors, la plupart des commentateurs n'ont pas ce bagage culturel, comme l'a bien noté Flusser, n'est-ce pas ? Et alors, bien des actes, des paroles de Jésus restent incompréhensibles. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que, finalement, dans la plupart des églises, l'enseignement de Jésus n'intéresse pas vraiment. On se polarise sur l'œuvre de Jésus sur la croix, ce qui est effectivement le centre, ce qui est l'essentiel de l'Évangile. Nous sommes bien d'accord. Et là, il n'y a pas de contresens à avoir sur cette question du salut, ça c'est vrai. Mais après, dès qu'on veut aller plus profond, dès qu'on veut s'arrêter véritablement à l'enseignement de Jésus, à l'enseignement des apôtres, alors on fait des contresens formidables. Alors que dire de l'enseignement de Paul ? Dès qu'on arrive à l'épître aux Romains, comme le disait, c'était un des l'entourage de ces savants israéliens qui travaillent là-dessus, mais l'épître aux Romains n'a pas encore livré tous ses secrets. Et finalement, on lit aujourd'hui, c'était le professeur Shalom Ben-Horin qui disait ceci, moi je suis juif, il dit. Et voilà, il ne faut quand même pas oublier que Paul n'était pas un pasteur réformé suisse disciple de Karl Barth, mais un rabbin juif du 1er siècle. Ça change tout. Ça change toute la perspective. N'est-ce pas ? Alors donc, il y a cette idée que Israël est rejeté. Israël est rejeté par Dieu. Et que son seul avenir, c'est de rentrer dans l'Église. Leur salut sera leur admission dans l'Église chrétienne. Alors, les post-millénaristes ne croient pas à cause de cela à une restauration future d'Israël dans son pays, ne serait-ce que parce que les prophéties ne peuvent pas s'appliquer littéralement. Que d'ailleurs, à ce moment-là, ça signifierait que le système mosaïque serait rétabli alors que le Nouveau Testament dit le contraire. Deuxième argument, la Bible parle souvent allégoriquement. C'est vrai, mais quand elle parle allégoriquement, elle le dit, ou elle le laisse entendre. Mais il est évident que la plupart des prophéties ont été reçues par ceux qui les ont recueillies, comme étant littéral. Est-ce que Dieu a volontairement égaré son peuple pour qu'il ne comprenne pas le véritable sens de l'Écriture ? Et est-ce que le véritable sens de l'Ancien Testament n'était compréhensible qu'à la venue de Jésus ? Et que dire s'il en était ainsi d'un Dieu qui se serait plu ainsi délibérément, volontairement, je dirais sadiquement, à empêcher que l'on comprenne que son peuple choisi, son peuple qu'il prétendait aimer, soit aveuglé volontairement, égaré volontairement. Enfin, ça paraît quand même énorme, ne serait-ce que sur un plan purement moral, purement éthique. N'est-ce pas ? Bien, on confond aussi, bien sûr, unité et uniformité. Ça, c'est souvent un des gros problèmes. C'est vrai que dans l'éternité, il y aura unité entre juifs et chrétiens, juifs et non-juifs, si j'ose dire plus exactement. Mais est-ce pour autant qu'il y aura identité ? Est-ce pour autant que tout le monde sera sorti du même moule. Mais ce qui est viscéralement, je dirais, attaché au cœur des goyim, c'est qu'il n'est absolument pas question d'admettre pour les juifs un avenir auquel les goyim ne participeraient pas. Les non-juifs ne participeraient pas. Il n'est pas question d'admettre que les juifs puissent avoir un quelconque privilège qui ne serait pas partagé par les goyim. Or, comme il est clair que les païens ne sont en aucune manière appelés à posséder la terre d'Israël, ça signifie que les juifs ne peuvent pas espérer récupérer non plus un jour la terre d'Israël. Donc toute l'aventure sioniste actuelle est, nous l'avons vu, l'œuvre des hommes et non pas l'œuvre des dieux, l'œuvre de Dieu. Or, Romains 11, versets 25 et 27, qui nous parle de la plénitude des païens, fait une différence entre les païens et Israël. Et par conséquent, même dans l'économie présente, après la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, eh bien, il y a cette différence qui demeure. Ce qui ne signifie pas qu'il y ait une prééminence d'Israël sur l'Église. Il y a deux vocations différentes, c'est tout. Différentes et complémentaires, et unies, justement. Et alors, à cause de ça, on veut considérer que l'Église est le successeur légal d'Israël qui a cessé d'être une nation. L'ancien ordre est mort quand Christ est mort, c'est ce que nous disions tout à l'heure, Dixit Hodge. Et on ne peut tirer d'enseignement sur la parousie que du Nouveau Testament. Toujours Hodge Dixit. N'est-ce pas ? Alors, quand on pose à Hodge ou à Murray, à des post-millénaristes, la question, mais comment se fait-il que le prémillénarisme était dominant dans l'Église ancienne ? Réponse, c'est à cause des Juifs. Parce que les Juifs étaient encore trop nombreux dans l'Église. Ah ! Comment se fait-il alors que les réformateurs, ou du moins beaucoup de ceux qui étaient autour d'eux, en tout cas des réformateurs, ont redécouvert le prémillénarisme ? Réponse, parce qu'ils avaient trop étudié avec des rabbins. Voyez-vous jusqu'où on va ? Et par conséquent, non. Il faut purger l'Église de tout ce qui est juif. Il faut purger Jésus de son identité juive. Parce que finalement, on assiste à cette situation absolument incroyable où souligner le caractère juif de Jésus, c'est en quelque sorte nier quelque chose de sa divinité. Si Jésus est Dieu, il ne peut pas être juif. Alors on dira, mais pourtant Jésus est juif. Bon, ben ça on l'admet, oui, bon, né sous la Torah, etc., né à Bethléem, bon, il est juif, ben c'est vrai. On dit ça du bout des lèvres. Mais il ne faut pas trop le souligner. Car si on le souligne trop, on enlève quelque chose à sa gloire et on enlève quelque chose à sa divinité. Pourquoi ? Parce que quelque part, c'est une honte d'être juif. Et que par conséquent, trop insister sur la judaïté de Jésus, bien, c'est attenter à sa gloire. Ça, c'est quelque chose que des gens comme Flusser et d'autres ont expérimenté, n'est-ce pas ? Et puis, finalement, il faut en quelque sorte dépouiller l'Église, dépouiller Israël pour enrichir l'Église. Plus on dépouillera Israël, plus on enrichira l'Église. Et on ne se rend pas compte qu'en agissant de cette manière, on n'enrichit pas l'Église, mais on appauvrit et l'Église et Israël. Pourquoi Jésus, bon, il était juif dans son historicité, dans sa nature humaine, mais dans sa divinité, il est plus juif. Dans sa divinité, il est universel. Il est, comme disait Teilhard de Chardin, le Christ cosmique. Bon, ça n'a plus rien à voir avec Israël. c'est d'ailleurs pour ça que on n'emploie pas le mot Messie, parce que Messie, c'est un terme nationaliste juif. Il est Christ. Christ, Christos, c'est en quelque sorte une sorte de patronyme, si on veut. Et ça le coupe, il est vraiment à ce moment-là le Christ cosmique. Mais on oublie que Jésus reste le Messie d'Israël, le roi d'Israël, qu'il est destiné à régner éternellement sur le trône de David son père, comme l'a dit l'ange à Marie. On oublie justement que dans son éternité, dans sa divinité, eh bien, il reste juif. Et que finalement, l'incarnation, eh bien, c'est une incarnation dans un peuple, dans une culture, dans une théologie, dans une manière d'être. Et que Jésus, donc, est né juif, il a vécu en juif, il est mort en juif. Et j'oserais dire, il est ressuscité en juif. Et il règne en juif, en tant que Messie d'Israël. Et par Israël, donc sur toutes les nations. N'est-ce pas ? Donc, ici, il y a ce refus. Et donc, pour les post-millénaristes, voilà comment on fait le calendrier et la chronologie des événements futurs. Grâce à la prédication de l'Évangile, le monde entier se convertira, le monde païen. Puis, quand le monde païen se sera converti, le peuple juif se convertira et rentrera dans l'Église, et donc cessera d'être, cessera d'exister en tant qu'entité différente. Alors évidemment, on pourrait dire, si ça doit se faire par les efforts d'évangélisation actuels, eh bien, bonjour, on n'est pas au bout de nos peines. Hein. Mais Hodge souligne le fait, ce que dit Paul, n'est-ce pas ? Ils sont ennemis à cause de vous. Donc Israël est un ennemi, conclut Hodge. Il faut quand même faire attention au mot ennemi, car Paul nuance aussitôt, n'est-ce pas ? Mais ils sont aimés, ils restent aimés à cause de leur père. Et finalement, quand on voit le contexte et le mot dans lequel Paul emploie le mot ennemi, finalement c'est eux, les juifs incroyants, qui sont ennemis de l'Évangile. Mais ceux qui croient, juifs et non-juifs, n'ont pas à être ennemis des juifs. Et là, c'est un renversement total de la perspective. Paul prend acte d'un fait. Ils haïssent l'Évangile. Et ils haïssent ceux qui professent l'Évangile. Mais depuis quand avons-nous ordre de haïr ? Jésus n'a-t-il pas dit « Aimez vos ennemis » ? Et si les Juifs sont ennemis, certains d'entre eux du moins, eh bien, est-ce que ils seraient les seuls auxquels l'ordre de Jésus de haïr ses ennemis ne s'appliquerait pas? On voit ici comment on marche sur la tête. Rien ne tient debout quand on le compare à la lumière de l'Évangile dans cet anti-judaïsme qu'on trouve justement dans ces mouvements post-millénaristes et amillénaristes. Finalement, le seul problème que Paul relève, c'est l'endurcissement d'Israël. Mais pour Hodge, cette parole s'applique non seulement à l'Israël présent, mais à l'Israël du passé, qui a été rejeté par Dieu, qui a toujours été ennemi, n'est-ce pas ? Et des gens comme d'autres post-millénaristes, comme Bodmer par exemple, vont jusqu'à prétendre qu'il ne faut même pas s'attendre à une conversion d'Israël à la fin des temps. Israël restera ennemi. Et c'est la raison pour laquelle tout le système judaïque est aboli et l'Église a pris sa place. Bon, le post-millénarisme, nous l'avons vu, est basé sur une théologie de l'Alliance qui a été formulée par Calvin. Et finalement, la plupart des post-millénaristes sont calvinistes, qui considèrent qu'il n'y a qu'un seul peuple de Dieu. Et par conséquent, tous les Juifs qui ont cru et qui croiront feront partie de l'Église, en sorte qu'il n'y a qu'un seul Israël qui est l'Église, qui est l'Israël spirituel. Nous avons vu qu'en son temps, l'Église s'est identifié avec le peuple d'Israël, et que, somme toute, l'alliance du Sinaï a été donnée à l'Église, et c'est une alliance qui s'applique encore à elle aujourd'hui. Bon. Mais puisque Israël a rejeté Jésus, Dieu a rejeté Israël. Mais, dit Bodmer, ce rejet n'est pas total, car il y a encore un reste qui a cru et qui est intégré à l'Église et qui sera intégré à l'Église aussi longtemps que le Seigneur ne sera pas revenu. Mais Israël en tant que nation est rejeté. Et ça, vous avez ça dans la déclaration de l'Assemblée constituante avec Clermont-Tonnerre, n'est-ce pas ? C'est exactement le post-millénarisme laïcisé. Ça veut dire, et Clermont-Tonnerre avait cette expression, n'est-ce pas ? Il faut tout accorder aux Juifs en tant qu'individus et rien en tant que nation. Et le concordat de Napoléon, n'est-ce pas, stipule qu'il n'y a plus de Juifs en France, il n'y a que des citoyens français de confession israélite. Et c'est encore aujourd'hui la position officielle du gouvernement français. Et une partie des problèmes du Moyen-Orient, une partie de la politique antisémite, appelons-la comme ça, du gouvernement français, actuellement vis-à-vis du Moyen-Orient, antisioniste en tout cas, n'est-ce pas, vient de cette notion-là. Les Juifs n'existent pas en tant que nation. Et là, on rejoint à fond la charte palestinienne. Il y a des citoyens de toutes les nations dont sont sortis les Israéliens actuels qui étaient de confession israélite, point. Donc que ces gens-là retournent dans leur propre nation. Car de toute façon, la majorité des élus sont des païens. Bien sûr, individuellement, les Juifs peuvent devenir élus aussi, mais à condition de devenir membres de l'Église par la foi. Et Israël, en tant que peuple élu, n'existe plus. Alors, bien sûr, il faut faire de grands efforts pour évangéliser les Juifs, qui doivent être respectés. On condamne l'antisémitisme d'ailleurs, n'est-ce pas ? Mais l'antisionisme est total. Quand les nations se seront converties, alors cela provoquera une conversion de la minorité, d'une minorité des Juifs, mais ça n'a rien à voir avec un retour futur d'Israël dans son pays. Alors commencera évidemment la grande période de paix, l'âge d'or sur la terre, qui ne durera pas forcément 1000 ans d'ailleurs, n'est-ce pas ? Et à la fin de cette période, un court temps d'apostasie qui sera marqué par la résurrection des morts, le jugement dernier et l'entrée dans l'état définitif. Voilà le schéma d'un Calvin, voilà le schéma de la plupart des églises historiques actuelles, n'est-ce pas, y compris de l'Église catholique, et finalement, aujourd'hui encore à nouveau, de beaucoup d'évangéliques. En conclusion, le post-millénarisme est basé sur trois grandes erreurs. Premièrement, vouloir tout systématiser, tout ramener à l'alliance de grâce. Et de ce fait, on est amené à ne pas tenir compte du caractère progressif de la révélation, pourtant souligné par Hébreux 1, Dieu qui a parlé au Père, puis au prophète, puis dans ces derniers temps par le Fils. Et donc l'idée qu'on trouve chez Calvin, qu'il ne peut pas y avoir deux peuples de Dieu. De ce fait, on attribue une grande part de la connaissance des doctrines du Nouveau Testament aux gens de l'Ancien Testament, qui manifestement n'en avaient qu'une connaissance pour le moins extrêmement réduite, en prétextant avec raison que les hommes de l'Ancien Testament, ceux qui seront sauvés, ne le seront que par la foi, ce sur quoi nous sommes tout à fait d'accord, mais là où on peut discuter, c'est sur le contenu de cette foi. Les post-millénaristes disent « Ils seront sauvés par la foi en Jésus, Seigneur et Sauveur. » Ben, nous disons non. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'ils n'avaient pas connaissance de la foi en Jésus que Sauveur et Sauveur, Seigneur et Sauveur à cette époque-là. Encore une fois, la première mention du salut et par l'œuvre expiatoire du Messie, c'est Ésaïe 53. Donc c'est la fin de la période de l'Ancien Testament. Qu'en était-il avant ? Vous avez les sacrifices d'Ancien Testament, c'était une image, bien sûr, mais une image très voilée, très ténue. C'est seulement l'Épître aux Hébreux qui nous fait la typologie des sacrifices de l'Ancien Testament. Les hommes de l'Ancien Testament n'avaient pas cette typologie-là, c'est évident. En tout cas, nulle part, l'Écriture ne nous fait cette typologie, c'est l'Ancien Testament, l'Écriture de l'Ancien Testament en tout cas. Et le protévangile, alors, le fils de la femme. Oui, bien sûr, mais enfin, ça c'est pareil, c'était quand même extrêmement ténu. Bon. Et il est bien évident que l'Église n'est pas révélée dans l'Ancien Testament. Ça, c'est l'affirmation du Nouveau Testament lui-même, on l'a vu. Donc, première erreur, elle est là. Vouloir systématiser l'alliance de grâce. Et là, on est évidemment dans la théologie calviniste à fond, qui base tout sur la grâce. Bon, on nous dit que la grâce, elle a de multiples aspects aussi, et qu'on trouve déjà la notion de grâce dans l'Ancien Testament. Enfin bon, ça c'est évidemment tout un autre chapitre. Deuxième erreur des post-millénaristes, ne pas vouloir reconnaître que Dieu n'a pas rejeté Israël, que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Qu'à l'inverse, qu'au contraire, c'est Israël, une partie d'Israël qui a rejeté le plan de Dieu et qui, ce faisant, a perdu la bénédiction de Dieu, s'est placé hors de la bénédiction de Dieu. Mais qu'il y a toujours eu et qu'il y aura toujours des croyants juifs. Et troisième erreur, c'est le problème de la spiritualisation des prophéties. Or, cette spiritualisation des prophéties fait appel à une grande part de subjectivité et fait totalement l'impasse sur l'histoire juive et sur le sens obvie du texte. Et là, à partir d'une pareille doctrine, eh bien, le christianisme que ces gens professent apparaît pour les juifs, avec raison, comme une hérésie abominable. Pourquoi? Parce que selon Deutéronome 13, vous vous souvenez du texte, l'Éternel, dit Moïse, vous suscitera un prophète comme moi. Et si le Seigneur vous suscite un prophète, et que ce prophète vienne à contredire tout ce qui a été révélé dans cette Torah, c'est un faux prophète. Et pour les juifs, pour les rabbins, on ne nie pas qu'il puisse y avoir d'autres révélations en dehors de la Torah. Finalement, que sont les livres prophétiques, sinon d'autres révélations? On affirme même que quand le Messie viendra, il donnera une nouvelle Torah, en se basant justement sur les mêmes textes que le Nouveau Testament. Jérémie 31, « Je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Bon. » Mais le critère de toute révélation, c'est qu'elle doit être cohérente et conséquente avec la révélation donnée dans la Torah. Et par conséquent, à partir du moment où on déclare « Le Nouveau Testament » met fin à la Torah. Christ est la fin de la Torah, la fin de la loi, comme nous disions tout à l'heure. Et comprendre quelques textes comme ça, extirpés de leur contexte, pour dire la Torah d'Israël, c'est nul et non avenu. À partir du moment où on dit il faut déjudaïser la révélation, et l'Église n'a plus rien à voir avec Israël, etc., 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 parfait, la cause est entendue. Le christianisme est une religion étrangère à Israël. Et Israël n'a rien à voir avec cette religion-là. Et même si cette religion est sortie d'Israël, même si Jésus était un juif, ce qu'a enseigné donc Jésus, puisqu'on dit que c'est Jésus qui a enseigné ça, et à plus forte raison ce qu'a enseigné Paul, car on dit que c'est Paul qui a enseigné ça, eh bien ces gens-là sont des hérétiques par rapport à la Torah d'Israël. Des faux prophètes, comme Moïse l'avait dit. Si quelqu'un vient avec une autre Torah, quelque chose de différent, bien, vous n'écouterez pas, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous tente pour vous mettre à l'épreuve, pour voir si vous écouterez ou non sa parole. Donc, Jésus a rejeté, Paul a rejeté, le christianisme tout entier, le Nouveau Testament a rejeté. Or, comme pendant des siècles, c'est ce qu'on a dit aux Juifs. On a dit aux Juifs, le Nouveau Testament met fin à votre Torah. Bon, ils ont dit, ok, parfait. Et aujourd'hui, la plupart des Juifs croient ça. Que le Nouveau Testament, c'est quelque chose de tout à fait opposé à la Torah. Et que par conséquent, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec le Nouveau Testament, ça ? En tant que Juifs, ils n'ont rien à voir avec... Ils n'ont rien de plus à voir avec le christianisme qu'ils ont à voir avec le bouddhisme. Bien sûr, il peut y avoir des choses communes. Bien sûr, il peut y avoir des choses intéressantes dans le bouddhisme. Ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais. Mais qu'est-ce qu'on a à voir, nous, Juifs, avec le bouddhisme ? Qu'est-ce qu'on a à voir, nous, Juifs, avec le christianisme ? Et on ne se rend pas compte que quand on tient ce type de raisonnement, on délégitimise le christianisme. Et une grande partie de la crise actuelle du christianisme vient justement de ce qu'il est illégitime. Il n'a plus de racines. Dieu avait dit « Honore ton père et ta mère ». Bon, quel est notre père et notre mère ? C'est le judaïsme. Bien. On a fait le contraire. On a méprisé, on a déshonoré, on a combattu. Eh bien, le résultat, on se trouve comme un arbre coupé sans racines. Bon. Or, justement, nous espérons démontrer dans la suite de ces études que loin d'être une réalité étrangère, d'abord Jésus lui-même, comme j'ai l'habitude de dire à ces gens qui tiennent ce type de raisonnement, après tout, et Jésus était quoi ? Il était juif ou il était chrétien ? Bon, c'est la question piège, bien sûr. Or, Jésus n'était pas le fondateur du christianisme. Il n'a jamais voulu l'être. Il n'a jamais pensé l'être. Paul était-il le fondateur du christianisme ? Non plus. Aujourd'hui, effectivement, on se trouve devant une réalité qui est souvent étrangère. Étrangère aux réalités anciennes. Alors, aujourd'hui, pour rendre sa crédibilité au christianisme vis-à-vis des juifs, je dirais au-delà des juifs, eh bien, il faut faire la démarche inverse. Il faut justement rejudaïser le christianisme. Oh là là, c'est abominable ce que vous dites là. Vous vous rendez pas compte ? Judaïser, mais c'est le pire des crimes qu'un chrétien puisse commettre. On vous brûlait pour moins que ça à l'époque de l'Inquisition. Au contraire, tout l'effort du christianisme historique a été de déjudaïser l'évangile. Et vous dites, il faut rejudaïser l'évangile. Désolé, brûlez-moi si vous voulez, mais persiste et signe. Et au contraire, quand on rejudaïse l'évangile dans ce sens-là, non pas qu'il s'agit de devenir juif, ni de judaïser au sens négatif du terme tel que Paul le condamne aux Galates, nous n'avons pas à devenir juifs pour vivre notre foi. Mais le chrétien non-juif doit savoir d'où vient sa foi. C'est ça le problème. Mais en général, le chrétien ne le sait pas ou ne le sait plus. Il doit savoir ce que sont ses racines. Et quand on redécouvre ses racines, eh bien, bien loin d'être appauvri, la foi est enrichie, la foi chrétienne est enrichie. Herz, elle l'avait bien compris, quand à la fin de son état juif, sur un plan laïque, il disait « Le monde sera enrichi par notre richesse ». C'est une parole prophétique. Aujourd'hui, on a cru que le monde chrétien, allait être enrichi par l'appauvrissement d'Israël. Et jusqu'à un certain point, c'était vrai. C'est ce que Paul un peu dit aussi aux Romains. Il dit si leur chute a été la richesse des païens. Mais il ajoute, que sera-t-il de leur réintégration ? Ah, il fait un raisonnement dont nous parlerons dimanche, Calva Homer, du plus facile au plus difficile. Si l'appauvrissement d'Israël a eu un tel effet bénéfique sur les nations, qu'est-ce que vous avez, vous, païens, à craindre d'un enrichissement d'Israël ? Mais alors, l'enrichissement d'Israël, le rétablissement d'Israël, mais ce sera comme pour les païens, pour le monde entier, comme une vie d'entre les morts, dit l'apôtre Paul. Et celles qui ne connaissaient pas la parole de Paul, bien sûr, Mais il a dit, sur un plan politique, finalement, la même chose. Le monde sera enrichi par notre richesse. Aujourd'hui, après 2000 ans de christianisme, encore une fois, on craint d'honorer Israël. On craint d'enrichir Israël. On craint de rendre à Israël ses richesses spirituelles qu'on a voulu confisquer pour soi. Parce qu'on croit à ce moment-là qu'on va appauvrir l'Église. Mais c'est le contraire. On va enrichir l'Église, au contraire. Encore une fois, on craint d'enlever quelque chose de la gloire de Jésus. Mais au contraire, on va glorifier le Seigneur. On va glorifier Jésus, le fils de David. N'est-ce pas ? Alors bon, je crois qu'on peut s'en tenir à ça ce soir, en terminant sur ce chapitre lamentable du post-millénarisme, et de dire, mais au contraire, le monde sera enrichi par notre richesse. Et là, eh bien, rendre à notre Père et Mère spirituelle ce que nous lui devons, honore ton Père et ta Mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voilà, si vous voulez, je vais m'arrêter là-dessus.